la prédication et je disais, tiens, peut-être ça risque d'être un peu long, mais par la grâce de Dieu, je fais en sorte de tenir le temps. Donc, merci Seigneur pour l'occasion encore que nous avons de partager ta parole. Nous en avons besoin pour notre édification. Nous avons besoin d'entendre, de comprendre cette parole pour mieux servir notre Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de mieux le connaître. Alors, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La fois dernière, nous avons vu le premier chapitre où les chrétiens de Thessalonique, nous l'avons dit, étaient donc éprouvés à cause de leur foi en Jésus. Et l'apôtre Paul donc leur écrit cette deuxième lettre pour les encourager et pour rendre grâce à Dieu pour leur persévérance malgré les afflictions qu'ils connaissaient. Et donc, il les encourageait à tenir bon et à supporter ces épreuves. Et c'était là l'encouragement que nous avons apporté la semaine dernière, apprendre à supporter les épreuves que nous rencontrons. Et puisqu'il dit que dans ce chapitre 1, qu'à travers ces épreuves, la foi fait de grands progrès. En tout cas, c'est le but, c'est que la foi fasse des grands progrès. Et que nous montrons aussi notre persévérance, et à travers cela, nous montrons aussi que nous sommes dignes du royaume de Dieu. Il dit aussi que viendra le moment où Dieu jugera ceux qui persécutent ces chrétiens, ceux qui les affligent. Et donc, nous avons un Dieu juste qui va juger les bons et les méchants, et donc ceux qui persécutent les chrétiens seront jugés en leur temps. Et puis il dit aussi que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il leur donnera le repos qu'ils attendent, et donc il châtiera ceux qui les persécutent. Donc dans le premier chapitre, l'apôtre parle déjà de la venue du Seigneur Jésus pour apporter le repos, pour apporter la délivrance. Et dans ce deuxième chapitre, il va aussi parler du retour de Jésus, puisque dans cette église, il y avait certains qui sont arrivés et qui ont des faux docteurs qui sont arrivés dans l'église et d'autres qui ont annoncé des choses qui n'étaient pas selon la vérité. Et donc, l'apôtre Paul va les éclairer par rapport à ce qui concerne le jour du Seigneur. Et l'exhortation que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est justement de tenir ferme dans la foi en attendant le retour du Seigneur. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble ce chapitre, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Voilà, nous arrivons à ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Alors, dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul répond à une interrogation des Thessaloniciens, parce que malheureusement, ces chrétiens qui étaient donc éprouvés à cause de leur foi, ils se sont laissés troubler, comme nous l'avons lu au verset 1 et 2, et ils se sont laissés déstabiliser même par de faux docteurs qui disaient que le jour du Seigneur était déjà là. Donc le jour du Seigneur qui est jour de jugement. Et donc dans ce premier verset, c'est ce qu'il dit. Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc la question c'est, est-ce que le jour du Seigneur était là? Donc il faut que nous définissions ce terme. L'apôtre Paul leur avait déjà parlé de ce jour, le jour du Seigneur, dans la précédente lettre, dans 1 Thessaloniciens, lorsqu'il disait dans 1 Thessaloniciens 5 que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit, il dit, dans 2 Pierre, Pierre le disait ça aussi, dans 2 Pierre 3, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc nous voyons dans ces deux passages que, aussi bien l'apôtre Paul que Pierre, lorsqu'ils parlent du jour du Seigneur, c'est une période de souffrance, de choses difficiles qui vont arriver. Dans l'apôtre Paul dit, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Voilà, donc le jour du Seigneur, jour de souffrance, jour de difficile, alors ces chrétiens qui étaient éprouvés, qui souffraient à cause de leur foi, se posaient la question, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce jour du Seigneur là? Le jour du Seigneur, frères et sœurs, et qu'on voit dans le Nouveau Testament, est l'équivalent du jour de l'Éternel qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et dans plusieurs passages, j'en ai noté deux ou trois, notamment dans Ésaïe, qui dit, Ésaïe 13, verset 6, « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Dans au chapitre toujours 13, verset 9, il dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Après, il y a Sophonie, il y a plein d'autres textes qui parlent du jour de l'Éternel, jour de jugement. Et donc, quand on parle du jour du Seigneur ou jour de l'Éternel, c'est synonyme de jugement, c'est synonyme de grandes souffrances. Et donc, ces chrétiens croyaient peut-être que tout ce qui leur arrivait, toutes les calamités, toutes les souffrances qu'ils rencontraient, c'était preuve qu'ils étaient là dans cette période de jour du Seigneur. Et pour certains même, ils remettaient en cause leur salut, puisqu'ils étaient là dans la souffrance. L'apôtre Paul leur avait rassuré, déjà dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul a parlé de, justement du jour du Seigneur, et il leur avait dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils devaient être rassurés. Il leur disait aussi que lorsqu'ils se sont convertis à Dieu, dans 1 Thessaloniciens 1, en abandonnant les idoles, c'était non seulement pour servir le Dieu vivant et vrai, lorsque Dieu nous sauve, c'est pour servir Dieu, mais dit aussi que c'est pour attendre des cieux Jésus, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, ces chrétiens devaient se souvenir de ces paroles de l'apôtre Paul pour pouvoir être rassurés que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Jésus nous a sauvés pour nous délivrer aussi donc de la colère qui est à venir, de ce jour du Seigneur. Alors comment le Seigneur va-t-il délivrer ses enfants? Comment le Seigneur va-t-il délivrer nous, les chrétiens, nous qui avons mis notre foi en lui, de cette colère à venir? Et l'apôtre l'a dit dans la première lettre, hein, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, où il parle de l'enlèvement de l'Église. Il dit que le Seigneur descendra du ciel et il ressuscitera ceux qui sont morts en Christ, et il changera ceux qui sont encore vivants, et ensemble, il est dit, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs pour pouvoir être avec lui. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et là, l'apôtre Paul leur avait parlé de ça. Et au chapitre 2 de Thessaloniciens que nous avons lu, dans ce premier verset, quand il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, alors il parle de cela. Il parle de ce moment où l'Église sera dans la présence du Seigneur, sera enlevée pour être dans la présence du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Alors dans cette partie, l'apôtre Paul veut donc les rassurer et leur dire que le jour du Seigneur, le jour de colère, n'est pas encore venu. Hein, ce jour de colère n'est pas encore venu. Et pour cela, il va leur donner donc les différents événements qui doivent précéder le jour du Seigneur. Donc les chrétiens, ils veulent les rassurer. Certains disaient, voilà, vous souffrez, donc on est dans cette période. L'apôtre Paul dit, non, calmez-vous un peu, c'est pas ça du tout. Il y a plusieurs événements qui doivent se produire avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Alors, la première des choses, il dit que l'apostasie doit arriver auparavant. Le verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc déjà, la première des choses, c'est l'apostasie qui doit paraître, qui doit arriver auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon volontaire et public d'une religion, d'après la définition, en particulier de la foi chrétienne. C'est un apostat, c'est celui qui abandonne sa foi, pour s'attacher à des fausses doctrines. Un apostat, c'est quelqu'un qui dit « oui, je crois en Jésus », qui vient à l'église, etc., et puis au bout d'un certain temps, abandonne, et puis pour pouvoir se tourner vers d'autres choses. Et nous sommes, dans ce temps où, je dirais que ça a presque tout le temps existé, même du temps de l'apôtre Paul, il y avait des apostats, il y avait des personnes qui commençaient et puis malheureusement qui terminaient mal. Dans 1 Timothée 4, l'apôtre Paul parle de cela, dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 10, on pense qu'on peut lire ensemble ce passage. 1 Timothée 4, versets 1 à 10, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie éternelle, de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Vous voyez, donc là, l'apôtre Paul dit que voilà, dans les derniers temps, il y aura donc des personnes qui abandonneront la foi, des apostats. Et donc, nous sommes dans ces derniers temps. Dans 2 Timothée, il a parlé d'Hyménée, de Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection était déjà là et que ces gens renversaient la foi de quelques-uns. Oui, l'apostasie doit arriver auparavant et on est déjà dans cela. Et même du temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà des apostats. Et quand on lit 1 Timothée et 2 Timothée, l'apôtre Paul traite de ce sujet et on peut même voir, en fait, qu'est-ce qui peut pousser un chrétien, et je n'ai pas envie de mettre les chrétiens entre guillemets, à devenir un apostat. L'apôtre Paul parle, par exemple, de l'amour de l'argent. Il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, il dit, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent fait que les personnes se détournent de la foi, puisque leur Dieu devient l'argent. Et ça peut être autre chose. Et les personnes abandonnent la foi parce que cette chose qui devient leur Dieu est là et ils préfèrent suivre ce chemin au lieu de rester fidèles à Dieu. Il parle aussi des discours vains et profanes et les disputes de la fausse science peuvent nous détourner de la foi aussi. Et l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, il dit à Timothée de garder le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Il dit, évite les discours vains et profanes dans 2 Timothée 2, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Donc toutes ces personnes qui viennent, qui parlent sous prétexte de spiritualité, mais il n'y a rien dedans, beaucoup de paroles, mais il n'y a rien, et ces personnes détournent les chrétiens de la foi, et ces personnes se laissent entraîner, et finalement, ils s'éloignent de la saine doctrine. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et l'apôtre Paul et d'autres apôtres ont mis en garde les chrétiens. Et il nous dit, par exemple, dans 2 Timothée 2, que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit le Seigneur. Donc, celui qui est apostat, qui abandonne la foi, montre qu'il n'est pas sauvé. Et donc, c'est pour ça qu'on peut mettre les chrétiens entre guillemets, parce qu'on se dit chrétien, mais finalement, dans la durée, parfois je dis, parfois, ce qui est bien, c'est bien de commencer, mais ce qui est encore mieux, c'est de terminer. Parfois, on commence bien la vie chrétienne, et puis au bout d'un certain temps, on ne voit plus personne, et puis on abandonne. Et cet abandon ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est petit à petit qu'on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et puis jusqu'au jour, on voit qu'on s'est tellement éloigné que c'est tellement difficile d'y revenir. Alors il faut faire attention. L'apôtre Jean aussi dit, pour ne pas tomber dans l'apostasie, il dit, bien-aimé, dans Jean 4, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'Antéchrist, il en parle et nous en reparlerons aussi puisque c'est le deuxième point que l'apôtre Paul aborde. Alors, frères et sœurs, voilà, que nous ne soyons pas des apostats, des gens qui professent le nom de Jésus et puis malheureusement, au bout d'un certain temps, abandonnent la foi. Et ces jeunes qui abandonnent la foi, ça c'est le titre d'un livre. Et c'est vrai que on grandit et puis il y a les plaisirs du monde, il y a toutes ces choses-là qui font que, voilà, on abandonne. Et donc on devient apostat. Alors dans le texte que nous avons lu dans Timothée 4, l'apôtre Paul exhorte Timothée à prêcher la parole. Il dit, il leur dit d'avoir une foi ferme fondée sur la saine doctrine. C'est ce qui est important, c'est que notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas juste « moi je pense ceci, moi je pense cela », ce n'est pas ça. C'est que dit la parole, et moi je crois ce que dit la parole, et on s'appuie sur la parole de Dieu. Il dit de repousser les contes profanes, donc les récits qui sont absurdes, les choses qui n'ont pas de sens. Voilà, il ne faut pas s'attarder avec cela. Et puis il dit « exerce-toi à la piété ». La piété, c'est le fait de venir à l'église, lire sa Bible, prier, maintenir cette communion avec Dieu. C'est important de persévérer dans ces choses parce que c'est en persévérant, en étant avec les autres chrétiens, que ça va nous aider à voir, à être éclairés par rapport à la parole de Dieu et grandir dans notre foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Et puis la dernière chose qu'il dit, donc, il faut mettre son espérance dans le Dieu vivant et vrai. Et donc ça, c'est dans Timothée. Alors, aussi bien l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean, il dit que le chrétien ne doit pas se laisser ébranler aussi par ces personnes qui annoncent ces fausses doctrines. Il y en a eu et il y en aura toujours. Parce que on sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas se laisser troubler par quelque chose. Mais c'est vrai que pour ne pas être troublé, il faut qu'on ait une connaissance, une bonne connaissance de la parole pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit pour être éclairé, pour savoir est-ce que ça vient de Dieu. Et ça, vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études en théologie, d'être un érudit en théologie pour pouvoir avoir ce discernement. Ce discernement, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Et n'importe quel chrétien qui lit la parole, le Saint-Esprit l'éclaire. Et lorsqu'il entend quelque chose, il peut dire, est-ce que ça vient de Dieu? Ils vont faire comme les chrétiens de Bérée, ils vont retourner à la parole, vérifier ce qui a été dit, et puis comparer. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'autre chose, c'est que l'apôtre Paul dit à Timothée que, aussi pour ne pas être un apostat, on doit être prêt à souffrir aussi pour sa foi. L'apôtre Paul, il a souffert à cause de l'évangile. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et il savait que Dieu allait le garder. Donc, il y a des personnes qui sont mortes aussi à cause de leur foi, mais n'ont pas voulu abandonner, n'ont pas voulu dire, voilà, nier le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ça peut aller jusque-là. Deuxième événement qui précédera le retour de notre Seigneur Jésus sur cette terre, il dit que c'est l'apparition de l'homme impie. Le verset 3 à 12, l'apôtre Paul parle de cet homme, l'homme qu'il qualifie d'homme impie, ou l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Il utilise plusieurs qualificatifs pour parler de cet homme qui va vouloir s'élever au-dessus de tout, et même vouloir prendre la place de Dieu, il dit. Il dit que c'est la description qui est faite de l'homme impie, là, il dit, et de son apparition, à quel moment il va apparaître, il dit que cet homme sera animé de l'esprit du malin. Il cherchera à faire ce que le diable a toujours voulu faire, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Que l'apparition de cet homme se fera en son temps, voilà. Il dit, lorsque celui qui le retient aura disparu. Donc, il va apparaître, même si on a déjà des éléments, des personnes qui peuvent donner, qui peuvent faire penser à cela, mais il n'est pas encore là. L'autre chose, c'est que cet homme apparaîtra pour un temps limité aussi, puisqu'il sera détruit par le Seigneur Jésus lors de son avènement. Donc, il y a quelque chose, il va apparaître un moment, et après il va disparaître, lors de la venue du Seigneur Jésus. Il dit aussi que versets 9 et 10, que l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Et puis, dernière chose, c'est que l'apôtre Paul dit que Dieu permet donc, l'apparition de cet homme pour, d'une certaine manière, juger ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc, ça sera un temps de jugement aussi pour tous ceux qui, malgré le fait d'avoir entendu l'évangile, on fait le choix de ne pas croire, on fait le choix de dire, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais vivre ma vie comme bon me semble. Alors viendra le temps où Dieu va les juger aussi. Et donc l'apôtre Paul parle de cet homme, l'homme impie. Le Seigneur Jésus en a parlé, l'apôtre Jean en a parlé, le prophète Daniel aussi. Si vous lisez donc Matthieu chapitre 24, lorsque le Seigneur donne le sermon, il dit, il parle de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en un lieu saint. Donc le Seigneur parle de cet homme impie qui va venir. L'apôtre Jean parle de l'antéchrist. Il y a un antéchrist qui va venir. Il dit, mais il y en a déjà d'autres qui sont là, mais il y a un qui sera le grand. Et dans Apocalypse 13, il parle de la bête qui monte de la mer. Donc en étudiant tous ces passages, on voit des points de convergence. Et pour comprendre qui est cet homme impie, la bête qui monte de la mer, l'antéchrist, celui qui est l'abomination de la désolation. Et Daniel chapitre 9, il parle du dévastateur. Voilà, donc ça ne sera pas non plus un tendre. Et l'autre chose que l'apôtre Paul leur explique, avant que le Seigneur Jésus revienne, il dit que l'apparition de ceux qui le retient ou de celui qui le retient, au verset 7, il dit que voilà, parce que cet homme impie, il ne va paraître qu'à un moment, mais il faut avant que ceux qui le retient ne puissent pas être là et qu'il ait disparu et qu'après cela, il paraîtra. Et donc la question c'est quoi celui qui le retient ou ceux qui le retient. Et donc c'est vrai que ça fait partie des points d'interrogation pour les spécialistes, essayer de trouver qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui fait que l'antéchrist ne soit pas encore là. Alors il y a plusieurs spéculations. Hein. Certains ont dit que c'était l'Empire romain et son empereur, d'autres pensent que c'est l'Église et le Saint-Esprit, Dieu et l'Évangile. Il y a plusieurs, voilà, chacun donne une réponse par rapport à cela. Moi, ma réponse, ce serait de dire, bon, j'ai une idée, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Parfois, il vaut mieux dire je ne sais pas, c'est une bonne réponse aussi. Hein. Dieu ne nous donne pas, ne nous dit pas tout, et voilà. Mais ceux qui le retient. Et alors celui qui le retient, c'est là toute la difficulté, mais ceux qui le retient, je vois que c'est les enfants, la présence des enfants de Dieu, son église, et puisque la Bible nous dit que l'apparition de l'impie sera un jugement de Dieu pour ceux qui n'auront pas cru en la vérité et qui seront condamnés, d'après les versets 10 à 12. Donc le véritable chrétien n'aura pas à connaître cette période difficile où l'homme impie sera là et il va régner. Donc les véritables enfants de Dieu ne vont pas connaître cela, parce que lorsqu'il sera là, ça sera pour juger ceux qui n'auront pas cru. Donc, au moins pour moi, ce qui le retient, pour moi, c'est l'Église. Après, il parle de celui qui le retient. Ça c'est, aurait disparu. Donc là, je préfère mettre un point d'interrogation. Certains pensent que c'est le Saint-Esprit. Mais bon, voilà. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer ça un peu. L'apôtre Paul, il dit qu'il faut qu'il y ait d'abord, avant l'apparition de l'homme impie, il faut qu'il y ait la disparition de ce qui le retient. Et l'apparition de l'homme impie va se faire pendant un temps, jusqu'au jour où Jésus-Christ va revenir lors de son avènement, et il va le détruire, il est dit, par le souffle de sa bouche. Donc ça sera lors du retour de Jésus sur terre. Donc on voit que dans cet espace-temps, il y a la disparition de ce qui le retient, donc l'enlèvement de l'Église, et après viendra une période, alors période de la tribulation, alors qu'on voit dans la Bible, qui correspond à la 70e semaine de Daniel, et après viendra l'avènement du Seigneur Jésus, donc son retour sur terre, et ça on le voit dans Apocalypse 19 aussi. Donc voilà, ces trois choses, l'apôtre Paul leur dit, mais avant que, alors cette, l'apparition de l'homme impie, le jour du Seigneur, c'est pendant cette période de jugement, de tribulation, où l'homme impie, l'antéchrist, qui est décrit dans Apocalypse 13, sera là, et il va, alors Daniel nous explique que, il va signer un traité de paix et à la moitié de, au bout de 3 ans et demi, il va rompre ce traité et puis ça sera une grosse persécution pour le peuple d'Israël, etc. Et donc l'apôtre Paul leur dit, voilà comment ça va se passer. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas, parce que lorsque l'homme impie va apparaître, ça sera pour juger ceux qui n'auront pas cru. Vous avez cru ? Eh bien ne vous inquiétez pas. Tu crois pas ? Ah ben là, fais attention. D'où cet avertissement que j'aimerais vous apporter à tous ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus. Si vous faites le choix de ne pas croire en la vérité, vous signez vous-même votre condamnation. Et si vous ne mettez pas votre confiance en Jésus-Christ, vous périrez parce que vous ne voulez pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est ce qu'il dit au verset 10. Il dit, verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, donc cet homme impie, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Vous ne pouvez pas dire, oui, je ne suis pas sauvé parce que Dieu ne m'a pas choisi. Ce n'est pas ça du tout. C'est vous qui ne voulez pas croire en la vérité. Alors, si aujourd'hui vous avez la possibilité de mettre votre foi tout simplement en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, et si vous le faites, eh bien, vous échapperez à cette période de tribulation, à cette période de grande souffrance, à cette période de jugement qui doit arriver sur la terre. Alors je vous ai mis ces trois versets, mais il y en a beaucoup d'autres. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur use de patience envers nous, l'apôtre Pierre nous dit, qu'avant donc de laisser agir sa colère, pendant cette période de tribulation, ou le jour du Seigneur, justement, de souffrance, L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, versets 9 à 10, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et après, il dit au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Donc là, on est encore dans cette période de patience, dans cette période de grâce, où Dieu nous fait qu'on annonce l'Évangile, et vous pouvez aujourd'hui mettre votre confiance en Jésus-Christ. Mais après ce temps, vient le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mais pour nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, qui avons donc placé notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, en attendant ce moment où nous serons donc enlevés pour être définitivement avec notre Seigneur, nous sommes encouragés à demeurer fermes dans la foi. C'est ce que l'apôtre Paul le fait dans ses versets 13 à 17 que je vais lire avec vous. Il dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Donc après avoir expliqué tout cela, l'apôtre Paul va encourager donc les chrétiens, et c'est ce que bien sûr je veux faire. Il demande aux chrétiens de demeurer fermes dans la foi, nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur. Alors en nous rappelant les vérités concernant notre salut, en restant attaché comme à la saine doctrine, mais aussi en trouvant notre consolation en Dieu. C'est ce que je vois avec vous pour terminer. Pour demeurer ferme dans la foi, nous rappeler, frères et sœurs, les vérités concernant notre salut. Et c'est ce que l'apôtre Paul y fait là. Il dit que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Et cette vérité, l'apôtre Paul l'a annoncée aussi aux Éphésiens au chapitre 1. Dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans Romains, il dit au verset 29 que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà, nous rappeler que c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a choisis. Et que si nous avons mis notre confiance en Jésus, c'est bien parce que Dieu a fait son œuvre dans nos cœurs, par son esprit, par l'action de son esprit, mais aussi par, il dit, la foi en sa parole, le verset 13. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est son esprit qui vient habiter en nous lorsque nous avons dit oui, je crois, Seigneur. Son esprit vient habiter en nous. Et au moment où nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, mais aussi c'est son esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est par son esprit aussi que nous pouvons vivre cette vie chrétienne et aller de sanctification en sanctification. Donc ça veut dire progresser jour après jour pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et cela, ça se fait par la lecture de la parole, l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole, et laisser Dieu reconnaître ce que Dieu doit changer dans nos vies, le laisser le faire, laisser le Seigneur le faire, et puis changer pour qu'au bout d'un certain temps, les gens puissent nous dire « Ah, mais ce frère-là, il a changé, je l'ai connu, il était comme ça, il faisait ça, il faisait ça. » C'est plus du tout la même personne. Ça, c'est ce qu'on doit dire de chrétien. Si au bout de plusieurs années de vie chrétienne, et puis on vous entend parler de telle manière, on vous entend faire telle ou telle chose, et puis qu'on ne voit pas Christ en vous, eh bien là, il y a un problème. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous, qui nous transforme. cette œuvre de sanctification, mais il dit par la foi en la vérité. Et la foi, c'est un don de Dieu. Et donc, le Seigneur permet que, après avoir entendu l'évangile, que nous mettons notre foi dans cette parole. Oui, Jésus-Christ, il est mort pour moi à cause de mes péchés. Je suis un pécheur, je mérite la mort. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Et en croyant en lui, j'ai la vie éternelle. Ça, je le crois. Et c'est la parole qui le dit. Alors, souvenons-nous, frères et sœurs, que notre salut vient de Dieu. Ça, il dit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, et afin que personne ne se glorifie. Voilà, on n'a pas matière à se glorifier, on est des enfants de Dieu sauvés par grâce. L'autre chose qui peut nous aider à demeurer ferme dans la foi et ne pas être un apostat, c'est rester attaché à la saine doctrine. Et l'apôtre Paul, justement, demande aux Thessaloniciens de retenir les instructions qu'ils ont reçues. Parfois, il y a des gens qui viennent annoncer des choses, mais tu dis, mais moi, ça fait 30 ans, 40 ans que je suis à l'évangile, j'ai toujours appris ça, toi, tu arrives, tu m'annonces ça, il y a un problème. Et donc, il est important de revenir à la parole et de retenir les instructions qu'on a reçues. Et une fois qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, d'étudier la parole. Il est important de se nourrir, de lire des livres comme Marc nous a présenté, des choses qui peuvent nourrir notre foi et que nous puissions examiner les Écritures pour cela. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous voyez que, il dit, demeure dans les choses que tu as apprises, les choses que tu as reconnues certaines. Depuis tout petit, tu es à l'évangile, tu entends? Et puis, pourquoi tu vas te détourner? Pourquoi tu vas aller voir ailleurs? Faisons attention. Et puis, la dernière chose pour demeurer ferme dans la foi, c'est trouver notre consolation en Dieu. Face aux difficultés, frères et sœurs, nous trouvons en Dieu la force, nous trouvons en Dieu la consolation, puisqu'il est assuré de... puisque nous sommes assurés de l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour, Dieu nous l'a prouvé, il est dit dans Romains, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous ne pouvons pas douter de son amour. Nous avons lu ce texte d'Ésaïe 43 tout à l'heure, qui dit que nous avons du prix à ses yeux. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous avons été rachetés à un grand prix. Voilà, donc, souvenons-nous de ces choses et voilà, les Thessaloniciens, ils passaient par les épreuves. Alors Seigneur Dieu, tu m'aimes, tu m'as sauvé, alors tu seras avec moi comme on l'a lu dans Ésaïe 43, lorsque dans la tempête, tu seras avec moi, dans le feu, tu seras avec moi, tu ne vas pas m'abandonner. Et c'est pas dès qu'il y a une épreuve, je ne veux pas dire une petite épreuve, parce que l'épreuve c'est l'épreuve et parfois c'est très très dur. Mais quelle que soit la dureté de cette épreuve, ça ne doit pas nous détourner de la foi. Que le Seigneur nous donne la force pour cela. Et c'est pour ça qu'il est important de prier aussi les uns pour les autres. Parce que ça arrive que des personnes, des pasteurs disent ces choses et puis lorsqu'ils se retrouvent dans la difficulté, ils abandonnent. Hein. Donc on a besoin de la prière. Hein. Nous avons tous que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc, frères et sœurs, attention, oui, aux enseignements que nous entendons, notamment sur Internet. Et il y a une flopée d'enseignants, de youtubeurs qui se font enseignants, etc. Et parfois, on entend un peu n'importe quoi. Et ce qu'on peut dire, c'est que la souffrance présente peut nous fragiliser spirituellement et nous rendre plus sensibles à certains enseignements qui sembleraient répondre à notre préoccupation. Et ça, il faut faire très très attention parce que Satan, il voit nos faiblesses et il sait nous donner la petite chose qu'on pense être la solution. Et ça, ces enseignements peuvent même nous faire douter de notre salut. Donc soyons vigilants. Et face aux doutes, rappelons-nous donc les instructions que le Seigneur nous a laissées dans sa parole. Demeurons fermes dans la foi et restons attachés à la saine doctrine sans nous en écarter. Et puis laissons notre Dieu, qui est le Dieu de consolation, nous apporter la consolation dont on a besoin, le secours dont on a besoin, le repos dont on a besoin, et puisque nous savons que c'est lui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne.